Bonjour, nous sommes jeudi le 22 mars. C'est notre premier jeudi du printemps.
Oui!
Et sachez que si on faisait notre émission de Washington ou de New York...
On n'aimerait pas ça!
Oh, je suis pas sûr qu'on aurait eu de la misère à arriver au poste.
Hein? Oui, oui, tout à fait.
Oui, ils ont des grosses bordées de neige dans ce qui est pauvre.
On les salue!
Salut la gang
good
à
luck.
Washington!
Good luck!
Il faut dire que la semaine prochaine, on va être dans ces coins-là. Hein?
Tout à fait, okay. Oui!
Alors, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? On commence par Monique.
Alors, bonjour Yvan.
Bonjour.
Alors, un premier article sur où en sont en fait les scientifiques en regard de la production de clones.
Oui.
Et où en est le clonage?
Oh, c'est deux choses ça.
C'est deux choses, okay. Tout à fait. Et ensuite, comme c'est probablement la saison des sucres qui est... à nos portes, les propos d'un chimiste.
Mathieu est heureux.
Oui, il se lèche déjà les doigts sur le plomb que l'on retrouve dans le sirop d'érable. Alors, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Et en complément, un texte qui décrit vraiment très brièvement ce qui a provoqué la disparition des dinosaures.
OK. Ooh. Est-ce que ça veut dire qu'on va falloir aller dans une cabane à sucre bientôt et dire « je veux du sans-plomb »
Je te raconte ça tout à l'heure.
Oh, Mathieu l'a pas aimé, celle-là.
Pouloum, push.
Marie, ça a l'air que je suis en train de me faire chicaner des yeux parce que j'ai pas présenté mon monde.
Mais c'est parfait, on le fait maintenant.
Alors, Marie, vas-y.
Alors, moi, dans un premier temps, je vais vous présenter, en fait, une recherche et je vais finalement le dire.
Deuxième essai.
Une recherche qui touche les effets de trop de télévision sur la santé des enfants ou des adolescents.
Okay.
Donc, on va voir les effets de ça.
Est-ce qu'on parle de la télévision spécifiquement ou des écrans?
Particulièrement la télévision, okay. Oui. Et dans un deuxième temps, une autre expérience des adolescents qui font de la cuisine, mais qui se filment, qui font des vidéos dans une école. C'est vraiment intéressant.
Oh, oui, j'ai bien hâte. Et moi, de mon côté, deux expériences de personnes qui étaient très actives physiquement et qui ont arrêté.
Faut pas faire ça.
Et qui essayent de repartir.
Oh. Vroom, vroom, vroom.
Là-dessus, une personne que vous connaissez pas et une personne que vous connaissez beaucoup.
Bon.
Ben, pour la plupart des gens. Alors, on lance ça. Allez, Mathieu. Alors, c'est moi qui commence avec un article de la série Actif au quotidien qu'on retrouve à toutes les semaines dans la presse. Et celui-ci s'intitule « Arrêter, puis repartir ». Et cette série d'articles-là, ça nous raconte comment font certaines personnes pour... faire de l'exercice physique à travers leurs activités de tous les jours. Alors, comme chaque athlète a son secret, on voit Mathieu ici à la console qui fait de l'exercice physique.
Mm-hmm.
La section pause qu'on peut lire le mercredi rencontre chaque semaine un mordu qui a décidé de faire de l'activité physique une priorité. C'était sous la plume de Marie Tison dans la presse du 14 mars 2018. Guy Sirois a été facteur pendant 35 ans. À sa retraite, il a décidé de se reposer. Mauvaise idée. Sa belle forme physique, il est facteur, a fondu comme neige au soleil. Il est donc retourné à ses anciennes amours, la marche à pied. Question. À quel point étiez-vous actif physiquement alors que vous étiez facteur? Au cours de sa carrière, il a calculé qu'il avait fait 123 000 km à pied avec un sac de 30 livres ou 14 kilos sur l'épaule, soit 14 km par jour, tous les jours de la semaine, pendant 35 ans. J'ai calculé que j'ai fait l'équivalent de 3 fois le tour du monde à pied.
Wow, c'est génial.
Mais toujours dans le même quartier.
Oui, c'est ça. Faisiez-vous aussi de l'activité physique à l'extérieur du boulot? je faisais du golf. Là, quand j'ai lu ça, quelqu'un qui marche pour son travail...
Il joue au golf.
Il faisait du golf, du tennis, du squash, du racquetball, de la planche à neige et de la planche à voile. Je ne vous ai pas dit où il travaillait. Hein? Il travaillait à Québec. C'est à garder en tête, ça. Lorsqu'il y avait du vent, je me hâtais de terminer ma route pour aller faire de la planche à voile sur le fleuve.
Oh.
Pourquoi avez-vous cessé d'être physiquement actif à votre retraite? J'avais couru toute ma vie, en fait, marché. Je me suis dit que j'allais prendre une pause. J'ai aussi eu des blessures, des déchirures au tendon d'Achille en jouant au tennis. J'ai également deux amis qui sont morts. Ça a été une grosse épreuve. Je ne sais pas si j'étais en dépression, mais ça ne me tentait plus. Puis ça, gardez ça en tête, là, ça ne me tentait plus, ça va revenir aussi dans mon
Donc,
deuxième article.
Québec et ça ne me tentait plus.
Oui, oui, c'est ça. Là, je vous donne des devoirs.
On accumule pas mal de, ouais. de devoirs.
Puis c'est juste le premier article. Et puis, des gens qui se lèvent à 6 heures du matin juste pour jouer au tennis, il n'y en a pas des tonnes. Question. Comment avez-vous réalisé que vous perdiez la forme? Il y a un escalier qui compte 400 marches à Québec. L'escalier du Cap Blanc.
Ah, d'où ce souvenir de Québec.
Oui, oui. Alors, coché.
Oui, oui, ça
Québec.
Y est.
Lorsque j'étais facteur, je le montais en courant 3 fois par semaine. Ça ne me prenait que 3 minutes. Après 6 semaines de pause, 1 mois et demi, je ne pouvais plus faire que 280 marches.
Oh mon Dieu!
Quand même!
Après 6 semaines de plus, là on est rendu à 3 mois, seulement 205 marches, la moitié, puis 170. Ça n'a aucun bon sens comment on perd vite la forme. Au printemps suivant, j'ai encore fait le test de l'escalier. 40 marches.
Ben voyons.
Plus de jambes ni de souffle. C'est là que je me suis dit « grouille avant que ça rouille ». Question. Qu'avez-vous fait pour vous remettre en forme? J'ai recommencé à marcher. Je pars avec un petit sac à dos et mon lunch. Je vais jusqu'à la rue du Petit Champlain, jusqu'à la terrasse du Frein. À partir de chez nous, c'est une bonne trotte. Il y a des journées où je fais 20 km par jour. J'ai vendu ma voiture. Mon plaisir, c'est de tout faire à pied. Je marche pour aller faire l'épicerie. Demain, je vais aller voir ma mère hospitalisée au CHUL, soit 7 km pour aller, 7 km pour le retour. Je marche tous les jours. Question, est-ce qu'il y a des jours où c'est plus difficile de sortir? Il y a juste la pluie qui me bloque.
Ah
oui. Ça, c'est désagréable.
Mm-hmm.
Il y a aussi le fait que ma blonde ne me suive pas tout le temps. Elle s'entraîne à l'intérieur alors que moi, je vais dehors. Ma vie est dehors. Je demeure dans un beau coin. Bien sûr, des fois, il faut se fouetter, mais moi, ça ne me prend pas un gros coup de fouet. Mais quand il fait froid l'hiver, eh oui, en hiver, bien habillé, je sors tout le temps. Quand j'étais facteur, j'aimais mieux l'hiver que l'été. En été, s'il fait trop chaud, on ne peut pas enlever plus de couches. En hiver, quand il fait moins 40, les chiens restent à l'intérieur. Pour un facteur, c'est merveilleux. On est à l'abri des chiens, puis on respire un air pur.
C'est drôle.
Avez-vous des objectifs à long terme? C'est simplement de garder cette forme que j'ai reprise de peine et de misère et de ne jamais m'arrêter. Je passe une belle petite retraite. Je veux que ça dure longtemps. Ça fait du bien d'aller dehors, de se promener la face au soleil, de voir des gens souriants et de jaser. Alors, je vous ai présenté Guy Sirois, 62 ans, retraité de Québec. C'était dans Actif au quotidien, sous la plume de Marie Tison, dans la presse du 14 mars. Le titre, Arrêter, puis repartir.
Allez.
Je vais faire comme à la télévision. Marie! Au lieu de Maude!
Oh mon Dieu, on est dans cette émission, comment s'appelle-t-elle?
C'est Jean-René Dufort.
Ben oui, c'est ça. Oui. Infoman.
Infoman, ça finit par Maude.
Revenons à la réalité.
Mais il y a un lien.
Il y a un lien, c'est parce que tu regardes trop la télé.
C'est ça, exactement.
Alors, le titre de cet article, « Regarder trop la télé à 2 ans, nuit à la santé à l'adolescence », c'est un texte de Jeff Heinrich, ou Henri, je ne sais pas comment prononcer son nom, publié sur le site UDM Nouvelles dans la section salle de presse le 13 février. Merci Monique de m'avoir suggéré cet article.
Ça fait plaisir.
D'après donc une étude menée à l'école de psychoéducation, regarder la télévision en bas âge pourrait inciter à l'adolescence à sauter le petit déjeuner, à manger mal et à être moins performant à l'école. Des chercheuses de l'Université de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal ont montré que passer trop de temps devant la télévision à l'âge de 2 ans pouvait entraîner de mauvaises habitudes alimentaires et nuire au rendement scolaire à l'adolescence. Dans une nouvelle étude longitudinale parue dans la revue Preventive Medicine, l'étudiante diplômée Isabelle Simonato et sa superviseure, la professeure Linda Pagani, ont examiné une cohorte de près de 2000 garçons et filles nés au Québec entre le printemps 1997 et le printemps 98. Les enfants ont été suivis dès l'âge de 5 mois dans le cadre de l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec.
Donc, c'est des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui.
Voilà. Quand ils ont eu 2 ans, on a demandé à leurs parents de dire combien de temps, chaque jour, leurs enfants regardaient la télévision. Puis, quand ils ont eu 13 ans, on a recueilli auprès des jeunes eux-mêmes de l'information sur leurs habitudes alimentaires et leurs comportements à l'école. Madame Pagani explique. On ne sait pas vraiment dans quelle mesure la surexposition aux écrans chez les jeunes enfants influe sur leur choix de style de vie à l'adolescence. Cette cohorte est idéale car les enfants sont nés avant l'existence des téléphones intelligents et des tablettes et avant la publication de recommandations pédiatriques destinées aux parents. Les parents ont donc élevé leurs enfants avec la télévision sans considérer qu'elle pouvait être nuisible. Cela rend notre étude très réaliste, effectuée sans directive ni interférence extérieure, ce qui est un grand avantage. Isabelle Simonato ajoute « Regarder la télévision est un comportement sédentaire, car cela ne nécessite aucun effort mental ou physique soutenu. Notre hypothèse était que si les jeunes enfants regardaient trop la télévision, cela les encouragerait à être sédentaires et que s'ils apprenaient à préférer les activités ludiques sans effort physique dès leur très jeune âge, ils ne seraient probablement pas intéressés par les activités non ludiques comme l'école quand ils seraient plus grands. Dans leur étude, les chercheuses ont découvert que chaque heure au-delà de la limite conseillée passée par les jeunes enfants devant la télévision entraînait de mauvaises habitudes alimentaires par la suite. En effet, chaque heure de plus passée devant la télévision à l'âge de 2 ans faisait augmenter de 8% ces mauvaises habitudes à l'âge de 13 ans. Dans les questionnaires, les adolescents qui avaient regardé la télévision quand ils étaient petits ont déclaré consommer plus de frites, de plats préparés, de charcuterie, de pain blanc, de boissons gazeuses standards et allégées en sucre, de boissons à saveur de fruits, de boissons pour sportifs, de boissons énergisantes, de collations salées ou sucrées et de desserts que les autres. C'est quand même un registre assez alimentaire large. assez bon. Regarder la télévision en bas âge amenait aussi les jeunes à moins prendre de petits déjeuners les jours d'école, pour 10 % d'entre eux.
Mais où sont les parents, Marie?
Et voilà, et on se le demande. Où étaient-ils? Ils travaillaient, je pense. Où ils faisaient le souper? Et à passer plus de temps au total devant les écrans à l'âge de 13 ans. Pour chaque heure supplémentaire de télé, il y avait augmentation de leur indice de masse corporelle, une hausse de 10 % et ces jeunes fournissaient moins d'efforts en première année du secondaire, ce qui finissait évidemment par diminuer leur rendement et leurs ambitions scolaires. Cette étude nous apprend que les habitudes de vie relâchées se prennent dès la petite enfance et qu'elles semblent persister toute la vie, fait remarquer Linda Pagani. Le manque d'effort dans les habitudes de vie comporte des risques pour la santé. Pour la société, ça accroît la charge de soins de santé associés à l'obésité et à la santé cardiovasculaire. Les chercheuses ont également évalué leurs résultats en fonction des dernières directives de l'Académie américaine de pédiatrie qui a réduit, sachons-le, de 2 à 1 heure la durée d'exposition quotidienne aux écrans, mm-hmm. tout type d'écran,
pas juste la télé. Oui, oui.
Recommandé pour les enfants âgés de 2 à 5 ans. Oui. Comparé aux enfants qui avaient regardé la télé moins d'une heure par jour à l'âge de 2 ans, ceux qui avaient passé de 1 à 4 heures par jour devant la télé ont dit, à l'âge de 13 ans, qu'ils avaient des habitudes alimentaires moins saines, qu'ils ne prenaient pas de petit déjeuner durant la semaine, que leur indice de masse corporelle était plus élevé, qu'ils passaient plus de temps devant un écran et qu'ils s'engageaient moins dans leurs études. Comme nous disposions de beaucoup d'informations sur chaque enfant et chaque famille, nous étions en mesure d'éliminer tout autre facteur psychologique ou sociodémographique qui aurait pu expliquer ces résultats. Ça, c'était vraiment idéal, relate Mme Simonato. Linda Pagani poursuit, « À la garderie, les parents utilisent le temps d'écran comme une récompense ou une distraction. Ils en font un temps calme d'inactivité plutôt qu'un moment où les enfants pourraient apprendre la maîtrise d'eux-mêmes. Mm-hmm. » Il faudrait comme repositionner cette intention-là. Okay. « Récompenser la distraction et les faibles efforts mentaux par du divertissement influencera le jeune plus tard dans sa façon de s'engager à l'école et de persévérer dans ses études. Nous croyons donc que les recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie, qui préconise, je vous le rappelle, que les jeunes enfants ne passent pas plus d'une heure par jour devant la télé, sont justifiées pour garantir les trajectoires de développement saines des adolescents. » Et c'est ce que les chercheuses concluent. Alors, voilà un texte de Jeff Henrich, publié sur le site UDM Nouvelles le 13 février dernier.
Merci, Marie. C'est très, 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 très intéressant. Mm-hmm.
J'ai demandé ton appui, puis je l'ai eu. Ta chaleur dans la nuit, puis je l'ai eu. J'ai désiré ton corps, puis je l'ai eu. La note et tout l'accord, puis je l'ai eu. Mais chaque fois que je te parle d'amour, tu dis que je suis bête et que j'ai rien compris. Oui, chaque fois que je te parle d'amour, tu me ris dans la face et t'allumes la TV. Chaque fois que je te parle d'amour, tu dis que je suis bête et que j'ai rien compris. Oui, chaque fois que je te parle d'amour, tu me ris dans la face et t'allumes la TV. Chaque fois que je te parle d'amour, tu dis que je suis bête et que j'ai rien compris. Oui, chaque fois que je te parle d'amour, tu me ris dans la face et t'allumes la télé.
Daniel Lavoie et sa chanson « Allume la télé ».
Merci beaucoup, Mathieu. Tu nous épates à toutes les semaines en trouvant des pièces musicales qui correspondent avec les articles qu'on lit. C'est vraiment,
vraiment
fantastique. À toutes les semaines, on arrive et on dit « Oh, qu'est-ce qu'on va avoir? »
Oui, c'est ça.
Monique.
Oui.
Le clonage.
Le clon, les
et
clones.
Les clones.
Oui, exactement. Alors, sous la plume d'Émile Gillet, pour la revue Science et Avenir de janvier 2018. Je vous avais dit que j'avais terminé cette revue, mais je l'ai revisité.
Tu as eu un soubresaut.
Oui, je l'ai revisité, c'est ça. Et puis cet article-là, finalement, a porté...
Mais toutes les semaines, tu nous fais découvrir des choses vraiment fantastiques.
Alors, le titre, c'est « Les clones se portent bien, le clonage moins ». Alors, les tout premiers clones, deux clones sont nés. Ah, je vois vos visages qui s'allument.
Je pensais à la brebis.
Oui, ben, je vais en parler, tu vas voir. Dolly, c'est ça?
Dolly.
Alors, l'annonce a été faite en novembre dernier par des scientifiques sud-coréens, donc après les Jeux olympiques. C'est les scientifiques qui nous parlent. Alors, cette équipe de l'Université nationale de Séoul était déjà à l'origine, en 2005, de la naissance de Snoopy, premier clone de chien. Copie générique d'une femelle lévrier.
Snoopy, c'est un clone?
Oui, mais attends, là on parle du...
Excusez.
Tu m'écoutes, là?
Oui, j'écoute.
Hein? Du lévrier afghan, nommé Thaï. Fin 2017, ce sont trois nouvelles copies de ce même Snoopy qui sont nées à leur tour en Corée. Clone, en reclone, hein, n'est-ce pas? En produisant des clones à répétition, l'objectif des chercheurs est d'étudier la santé de ces animaux par rapport à leurs originaux. Depuis longtemps, en effet, la question de savoir si un animal cloné subit un vieillissement accéléré reste sans réponse. Et tout ça, ça a été publié dans le Scientific Reports. Donc, les scientifiques ont comparé la longévité de Snoopy à celle de Thaï. Donc, Snoopy, c'était le premier. Ouais. Thaï, c'est le clone du clone. Et elles sont toutes les deux mortes d'un cancer d'origine vasculaire à respectivement 10 et 12 ans. Sachant qu'un tiers environ des lévriers afghans décèdent naturellement d'un cancer, les Coréens estiment que Snoopy ne présentait aucune fragilité liée à sa nature de clone. Cette affirmation a été corroborée par une équipe de l'Université de Nottingham au Royaume-Uni qui vient de révéler que l'arthrose dont a souffert Dolly, celle dont tu nous parlais tout à l'heure,
la première
brebis clonée en 1996, n'était nullement liée au clonage, contrairement à ce qui avait été avancé. Les Britanniques ont radiographié le squelette de Dolly, morte prématurément à 6 ans d'une maladie pulmonaire, de sa fille naturellement conçue et d'autres clones moutons. Conclusion, l'arthrose de Dolly est similaire à celle observée chez les moutons naturellement conçus et les clones âgés en bonne santé. Quant aux Coréens, ils espèrent que le suivi clinique et moléculaire des reclones tout au long de leur vie, fournira une occasion unique de comparer la santé et la longévité de ces animaux avec celle des donneurs. À l'origine, ces recherches sur l'animal étaient motivées par la perspective d'une médecine régénératrice chez l'homme. Hein, c'était pour nous aider, nous. L'idée était de disposer de cellules souches embryonnaires, c'est bien important le embryonnaire, pour produire à volonté en les poussant à se différencier des neurones ou des cellules musculaires, par exemple, et soigner ainsi de nombreuses pathologies. En 2004, une équipe coréenne, distincte de celle qui a créé Snoopy, avait annoncé à grand renfort médiatique être parvenue à produire le premier embryon humain cloné. Moins d'un an plus tard, elle était accusée de fraude scientifique. Le véritable exploit, finalement réalisé en 2013 par Shudrat Mitalipov, et ses collègues de l'Université de l'Oregon aux États-Unis, est quant à lui passé quasi inaperçu. Probablement parce qu'entre-temps, en 2006, sont apparues les cellules IPS, cellules souches pluripotentes induites. vous allez voir ce que ça veut dire dans quelques secondes. Mise au point par le japonais Shinya Yamanaka, prix Nobel de la médecine en 2012. Ces cellules ont des capacités de multiplication et de différenciation comparables à celles des cellules souches embryonnaires, mais sont produites à partir de cellules prélevées chez un adulte, au lieu d'aller chercher dans l'embryon. Vous voyez que ça facilite un peu les choses. C'est une alternative très intéressante. Avant de tempérer, ces cellules sont faciles à obtenir, mais leur utilisation médicale présente encore des difficultés techniques que des chercheurs tentent de résoudre. Par ailleurs, elles ne sont pas dénuées d'enjeux éthiques, puisqu'elles aussi, en théorie, permettent de créer la copie génétique d'un individu. Reste qu'elles apparaissent aujourd'hui comme une voie prometteuse de clonage. Pour le clonage, ainsi aujourd'hui, le seul intérêt de ce dernier, le clonage, semble être la reproduction de copies d'animaux représentant une très grande valeur économique, sportive ou génétique.
Oh.
C'est le cas notamment dans le monde épique, où certains chevaux se négocient, on le sait, à plusieurs millions de dollars ou d'euros, et où la très grande majorité des mâles sont castrés avant l'âge d'un an et ne peuvent donc pas se reproduire. Alors, le clonage devient un élément
de survie pour l'espèce.
Oui, et je pense que c'est à 60 minutes dans la semaine prochaine où on parlera justement de chevaux qui valent une fortune et qui sont des clones.
Qui sont des clones?
Et qui sont des clones.
Oh, mais les bourses, elles, ne sont pas des clones.
Non, absolument pas.
Oh là là, OK. Ben, gros merci pour ces informations-là. On a le temps pour quelques brèves. Moi, j'en avais une, oui. Une importante. Le chiffre de la semaine, 88 jours, 23 heures, 47 minutes, à votre avis?
Je donne ma langue au chat.
Ouais, c'est la durée de l'hiver 2017-2018. Alors, vive le printemps. Une très courte, un mot d'enfant du côté de Marie.
Haute-Cologne, selon Ineke, 5 ans, c'est du sang bon allemand.
Oh, mais alors, il connaît bien sa géographie, voilà. Alors.
Alors, on vous laisse là-dessus pour quelques instants, allez réchauffer votre café et on vous revient avec d'autres articles.
À la maison, ils n'ont rien à manger, à se mettre sous la dent, les petits. Ils font les marchés derrière les maraîchers, ils ramassent les fruits pas pourris. Toutes ces bouches à nourrir, toutes ces bouches à nourrir qui appellent. Toutes ces bouches à nourrir, toutes ces bouches à nourrir, je les aime. Toutes ces bouches à nourrir. Sont nombreuses de gamins aux joues creuses. Je suis l'aîné des charnés. Je gère les ardoises, les pourboires des bourgeoises qui nous trouvent mignons en haillons. Toutes ces bouches à nourrir, toutes ces bouches à nourrir qui appellent. Toutes ces bouches à nourrir. Ces bouches à nourrir, je les aime. Toutes ces bouches à nourrir. En Amérique, en Asie, en Afrique, c'est pareil. Les gamins tendent la main. Les larmes du monde sont sur eux tant de mouches qu'ils sont là de chasser de leur bouche. De leur bouche à nourrir. De leur bouche à nourrir qui appelle. De leur bouche à nourrir. Toutes ces bouches à nourrir, je les aime. Toutes ces bouches à nourrir. Toutes ces bouches à nourrir.
De son album Le Bal des oiseaux, c'était Thomas Fersen et sa chanson « Toutes ces bouches à nourrir ».
Alors, mesdames et messieurs, on va commencer la partie alimentation de notre émission. Vous êtes devant vos céréales, vos rôtis, votre café. Et là, on va vous parler de cuisine. Et c'est Marie qui commence.
Oui, et ça s'appelle « Silence ». Les adolescents cuisinent.
Attention, les dégâts.
Ça, c'est ceux qui ne sont pas devant la télévision.
Oui, oui, c'est ça.
En fait, oui et non, peut-être.
Oh, peut-être,
mais
oui,
c'est,
oui.
Ça fait référence à ce qu'on dit quand le film, quand on commence un tournage.
Oui, oui, oui.
Silence, on tourne. Alors ici, c'est Silence, les adolescents cuisinent. C'est un texte d'Anne-Isabelle Lévesque, publié sur le site du Réseau d'information sur la réussite éducative le 12 mars. L'adolescence constitue une période où les jeunes multiplient les repas hors du domicile familial, notamment en compagnie de leurs amis. Or, la saine alimentation des adolescents est un sujet qui intéresse de nombreux chercheurs. Le texte dont je parlais en première partie d'émission faisait mention de ça aussi, d'ailleurs. En partenariat avec un enseignant de l'école secondaire Mont-Royal, M. Vincent Ouellet, des chercheurs du Centre de recherche sur la communication et la santé se sont penchés sur cette question. Souhaitant aborder le volet alimentation de façon innovante dans son cours de sciences, l'enseignant Vincent Ouellet a développé un projet de capsule vidéo intitulé « Cuisine rapide, dangereusement santé et délicieuse ». Ce projet, qui vise à conscientiser les jeunes à l'importance de bien s'alimenter en réalisant des capsules vidéo, a fait l'objet d'une recherche menée par Christine Thoer, c'est T-H-O-E-T-R-E-M-A-R, professeure à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, Monique Caron-Bouchard, qui est professeure au Collège Jean de Brébeuf, et Rim Benzaza, candidate à la maîtrise en communication à l'UQAM. Alors, présentons le projet. D'abord, durant toute une année scolaire, les élèves de 3e secondaire de l'École secondaire Mont-Royal ont été amenés à réaliser des capsules vidéo sur l'alimentation et sur la préparation d'un plat facile à cuisiner et qui intègre des aliments sains. Au cours de l'année, ces élèves ont notamment réalisé différentes recettes en équipe. Les 4 objectifs du projet étaient les suivants. D'abord, réaliser des recettes santé en mettant en place de nouvelles compétences culinaires qui pourront être réutilisées en famille. Deuxièmement, identifier les nutriments présents dans les aliments composant la recette et comprendre le rôle qu'ils jouent dans le bon fonctionnement de l'organisme. Ensuite, découvrir et apprécier de nouvelles saveurs au travers d'activités de dégustation en classe. Et finalement, développer la confiance des jeunes en leur capacité de réaliser des mets délicieux et santé à tout moment de la journée. Vincent Ouellet, l'enseignant instigateur de ce projet, explique « La cuisine et la vidéo permettent aux jeunes d'explorer et de s'approprier les concepts scientifiques. Les jeunes se passionnent pour leur projet de création médiatique, ils le travaillent, ils en discutent et ce faisant, ils acquièrent des compétences tant en cuisine qu'en communication scientifique. La recherche maintenant, parce que ce projet-là a fait l'objet d'une recherche. L'objectif de l'étude menée par Mesdames Thoer, Caron-Bouchard et Benzaza était d'évaluer si cette activité de production et de diffusion de capsules vidéo favorisait la motivation et le sentiment d'efficacité des jeunes à l'égard de la préparation des repas et l'acquisition de compétences en matière de production vidéo. 3 groupes de discussion et une enquête par questionnaire ont été réalisés par ces chercheurs. Les résultats qu'elles ont obtenus indiquent que la réalisation de capsules vidéo suscite l'intérêt des jeunes et est très appréciée. En effet, 91,5% des élèves ont apprécié le projet. C'est quand même assez impressionnant. Le projet de capsules vidéo, notamment les filles qui ont mentionné être très intéressées. Pour en savoir plus, le projet mis sur pied par M. Ouellet et les résultats de l'étude menée par Mesdames Thoer, Caron-Bouchard et Benzaza ont été présentés au colloque qui s'appelait « Qu'est-ce qu'ils mangent? Construction des pratiques alimentaires à l'adolescence » et une vidéo de la présentation est disponible en ligne sur le site comesante.ucam.ca. Mm-hmm. On peut trouver cette vidéo-là.
Et puis, est-ce que tu as osé aller la regarder?
Je n'ai malheureusement pas parce eu le temps semaine, de faire ouais, ça ouais. Parce que j'ai eu une énorme semaine.
Okay.
Mais je le ferai, je vous en reparlerai.
Ben, je suis surtout curieux de savoir qu'est-ce qu'il préparait.
Bonne question. Tu voudrais les recettes. Hein?
Oui, c'est les recettes.
On pourrait écrire à Anne-Isabelle Lévesque sur le site de Réseau d'information sur la réussite éducative.
Alors, pour les prochains jours, il va faire sous zéro la nuit et plus zéro le jour.
Alors, on ira manger du sirop d'érable, peut-être.
Mais oui!
Alors, c'est un article de Martin Lassalle pour le journal Forum de l'UdeM du 14 mars dernier. Il s'intitule « Du plomb dans le sirop d'érable, la norme californienne est peut-être une bonne chose ». Alors, une norme californienne visant à réduire la présence du plomb dans le sirop d'érable...
À réduire.
Oh. ..entrera en vigueur en 2020 et oblige donc les acériculteurs québécois à revoir leur façon de faire. Ce qui est une bonne nouvelle, selon le professeur Sébastien Sauvé du département de chimie de l'Université de Montréal.
Mm-hmm.
On sait depuis bon nombre d'années que le sirop d'érable renferme des traces de plomb, lesquelles ne présentent toutefois pas un risque pour la santé. En fait, la sève de l'érable contient naturellement de très petites quantités de plomb, mais la concentration de ce métal est accentuée par les installations
ouais.
de récupération et de transformation de l'eau en sirop. Il est normal que le sirop contienne plus de plomb que la sève, car on réduit celle-ci de 35 fois pour obtenir le sirop, mmh. indique M. Sauvé. Alors, les traces de plomb dans le sirop sont donc potentiellement 35 fois plus élevées que l'eau d'érable.
Qu'au départ,
c'est ça. En 2014, un organisme de la Californie statuait que le sirop d'érable québécois contenait des traces de plomb qui dépassaient les normes établies par l'État américain. Il a fait adopter une entente fixant à 11 parties par milliard. PPB, je répéterai ces petites lettres tout à l'heure, la quantité de plomb acceptable dans le sirop pour que celui-ci soit vendu aux États-Unis, et ce pour les producteurs ayant plus de 20 000 érables entaillés. Alors, on retient le 20 000 érables quand même, parce que pour un petit producteur, il n'y aura peut-être pas les mêmes exigences. Ben, vous allez voir qu'est-ce qui sera requis. Ce seuil auquel les acériculteurs doivent se conformer d'ici donc 2020 est la norme de concentration qui s'applique généralement à l'eau potable. Donc, oui. on a transposé l'eau potable aussi. Est-ce que c'est à l'eau d'érable ou au sirop d'érable?
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a une petite chose à préciser là. Au-delà des 11 ppb, l'inscription « peut contenir des traces de plomb » devra figurer sur les emballages de sirop d'érable québécois destinés à la vente au sud de la frontière. Parce que vous allez voir, la quantité permise, on n'y répond pas, absolument pas. Donc, mais on aura cette inscription
ouais.
qui justifiera...
Mise en garde, là, oui.
C'est ça. Donc, Santé Canada a établi à 500
PPB
au lieu de 11 qui est requis, la concentration maximale de plomb qu'il peut y avoir dans le sirop d'érable. Mais les producteurs de sirop québécois se sont eux-mêmes imposés une limite de 250 ppb.
Ouais. Mm-hmm.
Avec l'adoption de la norme californienne, nombreux sont les acériculteurs qui ont entrepris de moderniser leurs équipements, ce qui n'est pas négatif quand même. D'après Sébastien Sauvé, les traces de plomb qu'on trouve dans le sirop ne posent pas de risque pour la santé humaine. Donc, vous pourrez consommer sans problème.
Allègrement.
Mais... Il ajoute d'autant plus que sa consommation est occasionnelle et faible en quantité.
Mm-hmm.
Hein, faut se soumettre à la faiblesse en quantité.
Occasionnelle de moins en moins, faible en quantité, je suis d'accord.
C'est toutefois l'accumulation du plomb dans le corps qui peut constituer un danger. Donc, le plomb est davantage présent dans l'eau potable que nous buvons, ainsi que dans bon nombre d'aliments que nous mangeons, conclut le professeur en chimie. En fait, il y a beaucoup plus de plomb qu'on ne le pense dans l'environnement. Selon Santé Canada, nous sommes tous exposés à des concentrations négligeables de plomb contenues dans l'air, le sol, la poussière domestique, hein? Alors ramassons la poussière, les aliments, l'eau potable et divers produits de consommation. Depuis le début des années 70, l'exposition au plomb a grandement diminué au Canada, surtout en raison de la disparition progressive de l'essence au plomb et des peintures au plomb et l'élimination presque complète des soudures au plomb que l'on retrouvait dans les conserves d'aliments.
Ouais.
Imaginez. Si les cas d'intoxication grave au plomb sont rares au pays, une exposition continue même à de très petites quantités de plomb peut s'avérer dangereuse, en particulier pour les nourrissons et les jeunes enfants, notamment à ce qui a trait à leur développement neurocognitif et neuromoteur. Donc, il faut quand même être vigilant. Je vous invite à ramasser vos poussières et à consommer donc le sirop d'érable sans problème, mais avec modération.
Évidemment.
Profitez-en bien. C'était un article de Martin Lassalle pour le journal Forum de l'UdeM du 14 mars dernier. Changement de cap total.
D'époque complètement.
Oui, je vous amène ailleurs.
On avait, le sirop d'érable n'avait pas été inventé, je pense.
Je ne penserais pas.
C'est pour ça qu'il a causé la disparition des dinosaures.
Alors, tout s'est passé très vite. Et il y a 66 millions d'années, un astéroïde se fracasse sur Terre, extermine les dinosaures et plonge la planète dans un hiver de 7 ans. Tu nous as parlé de je ne sais pas combien de...
Game of Thrones.
Oh. Oui. C'est ce qui ressort de simulations de Charles Barden de l'Institut technologique de Californie. Les continents ravagés par les incendies auraient injecté dans l'atmosphère 15 millions de tonnes de suie, provoquant une nuit d'au moins un an. La photosynthèse aurait été stoppée. Les températures auraient chuté de 28 degrés Celsius sur les continents et augmenté de 200 degrés Celsius dans la stratosphère. La couche d'ozone aurait été détruite, les espèces rescapées auraient subi de plein fouet les ultraviolets ravageants du soleil une fois la suie dissipée. Au bout de 7 ans, des pluies diluviennes auraient tout fait revenir à la normale, sauf les dinosaures disparus.
Oh.
Voilà.
Pauvre petite
bête.
Alors, à cause, excusez-moi, c'est mon texte a disparu de ma tablette. À cause de l'article que je vais vous lire, j'ai écouté une balado hier. Je n'avais jamais écouté de balado auparavant. Et ça a été très intéressant. La plupart des gens qui écoutent la radio de Radio-Canada ou qui la regardent connaissent Jean-Philippe Vautier, qui est un animateur. Et à la blague, dernièrement, il y a des gens qui ont parlé un peu de son physique.
Alors, et de sa prise de poids.
De sa prise de poids. Ouais. Alors, c'est le sujet de l'article que je vais vous lire. Ça s'appelle Jean-Philippe Vautier, « Faire le grand écart entre deux dix-roues ». Sentir ses seins rebondir en voiture et se faire dire en ondes « t'as épaissi » par Christiane Charette sont deux des facteurs qui ont poussé Jean-Philippe Vautier à se remettre en forme. L'animateur a décidé de présenter son expérience au public dans une série de balado-diffusion de 8 épisodes appelée « Grand écart ». Donc, c'est un article de Evelyne Audet dans la presse du 14 mars sous la forme d'une entrevue. Vous qui avez longtemps été un sportif très assidu et de très haut niveau d'ailleurs, est-ce que votre état physique était devenu si alarmant? Non, je ne crois pas. Là, il faut imaginer que c'est Jean-Philippe Vautier. Là, j'essaierai même pas de l'imiter.
Non, tu n'as pas les bons cheveux.
Non, de toute façon.
Et pas le bon rythme.
Non, non, non.
Alors, je continue ma lecture.
Oui, calme.
Donc, je ne crois pas que ça soit si pire, mais c'est juste que quand tu as déjà été en forme, tu sais c'est quoi, alors tu l'envies. J'ai déjà été vraiment en forme, à un point tel que j'ai eu une écœurantite de l'entraînement. Je me suis vraiment rendu au bout de ça et du désir que j'avais de m'entraîner. et la coupure a été vraiment sèche. Je ne pensais pas que ça allait être si drastique que ça. 3 ans et 2 enfants plus tard, non seulement je ne m'entraîne plus, mais je ne touche plus à ça. J'ai perdu mon texte, je m'excuse. Je me rends compte que je me suis vraiment laissé aller. Qu'est-ce qui a causé cet abandon? Un changement de priorité ou un manque de temps? J'ai changé de priorité, c'est certain. On ne manque jamais de temps pour s'entraîner, ce n'est pas vrai. Dans le 2e épisode de la balado-diffusion, je m'assois avec Hubert Lacroix, c'est le président directeur général de Radio-Canada. Il n'y a pas un petit job. En plus, il y a un certain âge et de jeunes enfants. Dans la balado, on le sait, c'est 10 ans et 6 ans. Eh bien, il court des marathons. À 5h30 le matin, il est debout. Et à 6h15, il est sur la montagne. Tout se fait dans la vie, donc je pense que c'est un manque de volonté, d'envie, de désir, mais aussi un oubli. Je pense qu'on oublie à quel point c'est cool d'être en forme. Je pense justement que ces discussions sont bénéfiques parce qu'elles t'allument sur des concepts que tu avais peut-être oubliés. Alors, comment est née l'idée de ce projet de balado-diffusion? Les balados, on en voit de plus en plus. Alors, c'est un projet qui me traînait en tête depuis un certain temps. Puis, ça me tentait de faire ça. Tout d'abord parce que ça m'obligerait à m'y remettre. Mais en plus, parce qu'entre personnes qui s'entraînent, on a toujours des discussions hyper poussées sur le sujet. Alors, ça me tentait de les expliquer aux gens pour leur permettre de décortiquer tout ce qui se passe derrière l'entraînement. Et ces discussions-là, tout le monde les a. Quand je m'assois avec des amis qui m'ont initié là-dedans il y a plusieurs années, c'est encore un bon sujet. Il y en a qui ont des enfants et qui ont abandonné l'entraînement, d'autres ont continué même avec des enfants, puis d'autres n'ont pas d'enfants et leur vie tourne autour de ça. Donc, je me rends compte que ça touche vraiment tout le monde. Vous avez donc récemment repris l'entraînement. Que faites-vous et comment cela se passe-t-il? Les premières semaines sont difficiles, c'est certain. J'ai rappelé l'entraîneur que j'avais avant qui me faisait des plans d'entraînement. De toute évidence, ils ne sont plus du tout à mon niveau. Alors, il m'en a fait un nouveau assez complexe de 6 jours par semaine, sauf que c'est d'environ 30 à 45 minutes, sinon 1 heure par jour. Donc, finalement, ça s'emboîte assez facilement dans mon horaire. L'idée, c'est d'adapter son plan à sa vie pour augmenter ses chances de réussite. J'ai un vélo stationnaire en bas chez moi, donc sur mon plan, il y a du vélo. J'ai quelques poids libres aussi, alors j'en fais chez moi et au gym. Il faut vraiment que ça soit facile avec ce que tu fais, comme ça l'intégration se fait toute seule. Mais c'est certain que ça implique une discipline et c'est ça en fait la difficulté. C'est la discipline beaucoup plus que les priorités. Quel est votre objectif ultime? Je suis inscrit au marathon de Chicago en octobre prochain. Je l'ai fait il y a 5 ans avec un temps de 3h28. Pour la plupart des coureurs, essayer de battre 4 heures, c'est déjà l'objectif ultime.
Okay.
Mon but à l'époque, c'était de faire un marathon en moins de 3 heures. J'ai bien compris que ça n'arriverait pas cette année. Mais disons que 3h25, je serais content. Hubert Lacroix m'a donné comme judicieux conseil d'adapter mes objectifs. Alors, je vais observer mes premiers mois d'entraînement pour voir comment ça va et j'adapterai aux besoins. Cela dit, je pense que 3h25 avec l'entraînement que j'ai, c'est faisable. D'où vient le titre du balado « Grand écart » J'ai retenu ça en faisant référence à l'image de Jean-Claude Van Damme qui fait le grand écart entre deux dirous.
Ah, voilà le titre. OK, on a compris. Là.
Ce qu'il dit pas, c'est que les deux dirous, parce que je suis allé voir sur...
Oui, oui, sur
les
YouTube.
Les deux dirous sont en marche.
Oh, voilà.
C'est une image qui me fait vraiment rire. Et je me disais qu'entre ne pas être en forme et l'être, il y a un grand écart. Et ce n'est même pas un jeu de mots en soi, il faut vraiment faire un grand écart pour réussir à se rendre là. Ça me semblait tout à fait conséquent avec notre sujet et l'aspect de performance qui y est rattaché. Mais tout ça en souriant et en riant. Alors, dans l'article, ça dit que le premier épisode est déjà en ligne. Je peux vous dire que les deux premiers épisodes sont déjà en ligne sur le web et l'application mobile d'ici Radio-Canada Première. Un nouvel épisode s'y ajoutera chaque jeudi, donc j'ai probablement quelque chose à écouter aujourd'hui. Mm-hmm. C'était l'article « Jean-Philippe Vautier fait le grand écart entre deux dirous » dans la presse du 14 mars sous la plume d'Evelyne Audet. À l'heure des brèves. Et ça commence par Monique avec une capsule linguistique.
Oui, alors, parle-t-on trop vite lorsqu'on saute aux conclusions?
Je sais pas.
L'expression...
Je suis en mots.
C'est bien sûr une capsule de M. Guy Bertrand.
Oui, oui.
Elles
oui.
ne sont pas de moi.
Bien sûr.
L'expression « sauter aux conclusions » est la traduction littérale de l'anglais « to jump to conclusions mm-hmm. ». En français, au lieu de dire qu'on saute aux conclusions, on doit dire qu'on conclut trop vite. Qu'on conclut à la légère ou qu'on tire des conclusions hâtives. L'utilisation de la locution « parler trop vite » dans le sens de « conclure trop vite » peut prêter à confusion. Alors, en effet, « parler trop vite » signifie « parler avec un débit trop rapide
oui. ». Oui,
alors, ce qui n'est pas le...
Ce qu'on c'est pas dire. Le même sens.
C'est
faut,
pas le même
faut
sens.
Il ne faut pas sauter aux conclusions.
Voilà.
Alors, de mon côté, c'est un article que je dédie à Marie. Ça s'appelle « Job à vélo, Esther Labrie et la bibliocyclette ». Esther Labrie chérit les livres. Aux grandes dames de la directrice générale de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, son amour pour le bon vieux papier n'est cependant pas partagé par l'ensemble de la population qui préfère pianoter sur des écrans et dont le premier réflexe n'est pas nécessairement de mettre les pieds dans une bibliothèque municipale. C'est pour rejoindre les Rouyn-Norandiens, là où ils se trouvent, dans les parcs, les marchés locaux et les fêtes de quartier, qu'elle et son équipe ont mis sur pied la bibliocyclette. L'été dernier, cette petite bibliothèque sur trois roues a sillonné les rues de la ville de 42 000 âmes afin d'offrir gratuitement le plaisir de la lecture au grand public. C'est à l'animatrice de l'heure du conte de la bibliothèque, Lydia Blouin, que les opérations de la bibliocyclette ont été confiées. À chacune des cinq sorties effectuées, l'animatrice a raconté deux histoires et apporté une sélection de livres afin de permettre aux petits et grands de bouquiner.
Quel beau projet!
Bien sûr, la conduite du triporteur de 70 kilos était aussi sa responsabilité.
Aïe, aïe, aïe!
Si quelques lecteurs ont immédiatement remis les livres empruntés sur place, la majorité les a retournés en main propre plus tard au comptoir de la bibliothèque. Ils ont ainsi découvert l'institution, ce qui était l'objectif poursuivi. Il est prévu que l'activité soit reconduite à l'été 2018 et elle pourrait faire des petits dans les régions de Trois-Rivières et de Gatineau aussi. Alors Marie, à quand la bibliocyclette à Montréal?
Le défi! Alors, j'allais me promener sur le site du réseau d'information pour la réussite. Le réseau d'information pour la réussite éducative, c'est le site RIRE qu'on peut trouver sur rire.ctreq.qc.ca. Et j'ai découvert là un dossier thématique sur la déficience intellectuelle. C'est l'Association du Québec pour l'intégration sociale, l'AQIS, qui, dans le cadre de la 30e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, a lancé un outil d'information, de vulgarisation, dans le but de mieux renseigner les gens sur la déficience intellectuelle, et qui publie donc sur le site du RIRE des articles scientifiques de recherche, des outils vulgarisés, des vidéos. C'est vraiment formidable, mm-hmm. vraiment une mine d'or, une belle ressource.
Alors, je vais vous parler de vernis à ongles. Prudence sur les vernis à ongles. Selon une expertise de Lens, en France, l'exposition régulière des professionnels du soin et de la décoration des ongles n'est pas sans risque. En cause, une soixantaine de substances classées cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou potentiels perturbateurs endocriniens. Alors, on arrête de mettre du vernis à ongles.
Moi, ça fait un bout de temps que j'ai arrêté, d'ailleurs.
Oui, c'est une bonne idée.
Oui, n'est-ce pas?
Quelques mots d'enfant.
Oui.
Écaille, selon Alessia Sétain, c'est la matière dans laquelle est fait le manteau du poisson. Si on le lui enlève, il a froid parce qu'il se l'écaille. Les Français disent parce qu'il se l'écaille.
C'est un jeu de mots français.
Puis printemps, je ne peux pas le faire, celui-là.
Oui, oui, vas-y.
C'est la saison quand la neige fond et qu'elle repousse en gazon, selon Jane, 5 ans.
Alors, on en profite pour remercier Mario Tessier. Marie et moi, on
Mathieu.
Vous laisse...
Mathieu,
j'ai dit Mario. Oui. On vous laisse pour une semaine aux bons soins de Monique. Et on vous revient après.